Alain Bokovza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable mondial de la stratégie d'allocation d'actifs de la Société Générale. On va parler avec vous des marchés et des perspectives sur ces marchés. On a eu à la fois de l'euphorie, on a eu des craintes, on a toujours cette crise sanitaire avec nous. Quel regard vous portez, je dirais, avant les mois octobre que les boursiers n'aiment pas, on le sait, sur l'état des marchés aujourd'hui?
Les marchés font le grand écart entre, d'une part, ce qu'on appelle le Main Street, c'est-à-dire l'état récessionniste de l'économie mondiale, comme on n'a pas vu depuis environ un siècle, et d'autre part, une réponse de politique économique qu'on n'a jamais vue non plus, à la fois sur le plan fiscal, sur le plan monétaire, et aussi, soyons sincères, sur la vitesse d'exécution, parce que parfois il y a des plans qui sont mis en place et qui mettent très longtemps à être exécutés. Et là, toutes les annonces sont suivies des faits. Donc cet écart-là, c'est celui qui perturbe le plus, en voyant des marchés du crédit, des obligations privées, des marchés d'actions qui sont revenus à peu près là où ils étaient en début d'année pour la plupart, et une économie qui est en récession, même si elle se redresse. Et cet écart, c'est la réponse de politique économique, la vitesse, la qualité d'exécution, qui fait qu'on peut rester encore un moment avec cet écart-là.
Il y a toujours un sujet de fond quand on regarde l'évolution notamment des marchés américains. On a vu les investisseurs se concentrer sur les valeurs tech pour faire vite, pour certaines valeurs tech. Il y a des valeurs tech qui ont fait des parcours, on va dire, dignes des années 2000, avec des courbes ascendantes sans fin jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Il y a eu quand même cette concentration, donc on ne peut pas dire que toute la bourse a monté, et quand on parle de record, finalement, il y a certaines valeurs, il y a eu une concentration, donc il y a eu une peur sur le reste de la cote.
Alors, la période que nous vivons, depuis le début de l'année, et c'est pareil partout dans le monde, et d'une période qu'on regardera dans une génération comme une période d'accélération de la numérisation de l'économie. En disant, quel que soit le point de départ, chacun dans les domaines d'activité dans lesquels on est actif ou retraité, on est beaucoup plus digital qu'avant. On utilise beaucoup plus l'Internet qu'avant, à tous égards. Donc là, ce n'est pas anormal, et pas simplement aux États-Unis, mais partout dans le monde, dès qu'il y a des valeurs de technologie cotées qui sont à répondre à des besoins de nos besoins de travailler à distance ou de faire des choses à distance, que ces parcours-là aient été exceptionnels. Maintenant, quand on regarde toute la planète des entreprises de croissance, il y a quelques entreprises aux États-Unis qui ont été, comme vous le disiez, très très rapides vers le haut et qu'on peut redistribuer quand on a de l'investissement vers d'autres valeurs de croissance qui peuvent être en Europe, qui peuvent bien sûr être en Asie, qui peuvent aussi être en Chine, à Taïwan, en Corée, qui sont d'excellente qualité, moins chères, et donc de redistribuer les composantes de croissance là où elles sont à des prix plus raisonnables.
Alors ce qui reste, c'est la politique monétaire, cette politique monétaire qui conduit à des taux d'intérêt très bas. Je dirais, plus on avance en mois, en année, finalement, on a l'impression que rien ne change vraiment de ce côté-là. On rajoute des années de taux bas.
À la fois, je vais tenter de répondre oui, sans plus, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. En même temps, par rapport à la réponse de politique économique qu'on a vécue il y a 10 ans, après la grande crise qui a suivi la faillite de Lehman Brothers, cette fois-ci, on a une réponse monétaire musclée, mais une réponse fiscale non moins musclée. Et ça, c'est nouveau, non seulement parce que les injections fiscales, déficits budgétaires qui sont dépensés quelque part chez les particuliers, dans les deux entreprises, sont importants, mais on nous dit en plus qu'en 2021, il n'y aura pas d'austérité. Et y compris l'Allemagne, qui a été, dans la crise précédente, a imposé son austérité à tous les pays, y compris les pays périphériques plus fragiles, que ce soit la Grèce, l'Irlande, le Portugal, ont souffert d'une austérité prématurée à partir de 2009-2010, donc il y a 10 ans. Et cette fois-ci, les dirigeants allemands, non seulement nous disent qu'eux-mêmes ne feront pas d'austérité en 2021, année électorale pour eux, mais ils nous disent aussi qu'ils vont contribuer avec d'autres pays européens, dont la France, à aider les pays périphériques, dont l'Italie, avec le fonds de retournement et aussi avec ce qu'on appelle le Green Deal. Un tiers des dépenses qui vont être réalisées par l'Union européenne est orienté vers la transition énergétique et le combat contre le changement climatique. Et ça, c'est nouveau et c'est aussi de la croissance.
Alors, on a donc ces injections de liquidités, cette politique monétaire qui permet de maintenir effectivement cette croissance, ou en tout cas une plus faible croissance puisqu'on a eu effectivement cette crise, mais on parle aussi d'entreprises zombies, c'est-à-dire que vous avez entendu ça sur les marchés en disant bah oui, mais là on soutient des entreprises qui, si elles n'avaient pas ce soutien et cet environnement de taux d'intérêt, auraient déjà disparu.
La proportion d'entreprises décrites augmente en ce moment. Si on était autour de, suivant les études qu'on peut voir ou faire, c'était 4-5%, on monte au-delà d'un nombre à deux chiffres, au-delà de 10%, surtout aux États-Unis, il y en a quelques-unes en Europe. C'est très important si on a à placer du capital de faire attention à ne pas être dedans, parce que c'est les entreprises fragiles qui, a priori, sur le long terme, n'ont pas d'existence viable. Donc, de financer ces entreprises, c'est dangereux pour l'utilisation du capital. Et en même temps, pour faire un lien avec l'idée qui était évoquée tout à l'heure, si on se dit que les autorités, appelons ça un mélange de politique fiscale, subvention, d'aide, et la politique monétaire qui fait tourner la planche à billets pour aider tous les acteurs qui ont un manque de liquidité, d'aller dire je vais faire celle-là et pas celle-là, ou celle-là et pas celle-là des entreprises, ça aurait pu prendre 18 mois avant de commencer à injecter. Entre-temps, l'économie aurait connu des dommages considérables. Donc c'est des choix politiques qui ont été faits, de processus d'injection, en se disant que la vitesse d'exécution, compte tenu de la peur gigantesque, hein, souvenez-vous, en janvier, février, puis mars, l'état de l'économie et des marchés, c'est les deux à la fois, l'un est le reflet de l'autre, pour répondre, la vitesse d'exécution à nécessité d'arroser, entre guillemets, plus large, viendra un deuxième temps dans lequel il y aura plus de discrimination. Et là, ceux qui ont dans leur portefeuille des entreprises non viables à long terme, c'est la traduction un peu plus littérale du terme zombie, que ce soit par les obligations privées ou que ce soit par les marchés d'actions, souffriront. Et donc il faut éviter.
Alors, j'ai eu l'occasion de parler dans un récent magazine économique, l'Info Eco Plus, des lettres qu'utilisent les investisseurs et les économistes, la reprise en V. Alors, on peut la mettre de côté, cette reprise en V, mais on parle de reprise en U, en L. Les plus pessimistes parlent d'un I, donc là, on sombre vraiment, on va le plus bas. C'est notamment Nouriel Roubini qui avait prédit la crise des subprimes. Quelle lettre aujourd'hui, double dip, le W, est-ce qu'il y a une lettre qui aujourd'hui parle plus aux investisseurs et vous parle plus à vous? Est-ce qu'on y voit plus clair, c'est-à-dire sur la suite?
Alors, si on part des faits, pour l'instant, on est en V. On a connu un abysse dans le courant du premier trimestre. Après, il a été un petit peu décalé suivant la date d'entrée en confinement total suivant les pays, mais c'était une entrée, la première jambe du V. Depuis le deuxième trimestre, suite aux injections fiscales, monétaires, on a une reprise en V partout. Donc les reprises en glissement annuel sont très importantes. Les ventes au détail pour la plupart des grands pays développés sont revenues au niveau d'avant-crise, donc c'est extrêmement rapide. Et après, viendra un point d'inflexion. Donc, pour ceux qui aiment les maths, ça peut être une forme de racine carrée, où les glissements annuels, quand on va comparer un trimestre avec le même trimestre de l'année précédente, il y aura un point d'inflexion qui sera autour du deuxième trimestre l'an prochain, puisqu'on aura déjà fait la jambe du V, et on se comparera à ça. Donc la vitesse d'accélération sera plus compliquée à partir du premier, deuxième trimestre l'an prochain. C'est plutôt une forme de racine carrée, toujours en croissance, mais en croissance beaucoup plus lente que la reprise qu'on connaît maintenant, qui est réellement en V partout. Elle est encore plus en V en Asie ou en Chine, qui est la deuxième économie mondiale, parce qu'ils n'ont pas cette seconde vague du virus que nous avons dans la plupart des pays européens et qu'ils ont aux États-Unis. La Chine ne l'a pas, une partie de l'Asie ne l'a pas, et donc il y a moins de vent contraire quand on fait des prévisions de croissance horizon 2021 pour cette région-là du monde.
Le mot de la fin, si on devait résumer l'allocation d'actifs telle qu'elle peut être aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances?
Alors, on reste confortable sur les marchés d'actions, sur les marchés des obligations privées, en liaison avec la poursuite de la reprise économique, mais elle se ralentit un petit peu, des injections qui restent très importantes. Aucun gouvernement ne dit demain matin j'arrête d'injecter et les banques centrales sont sur la même tonalité. Donc le mélange de ces vents contraires et de ces vents porteurs devrait autoriser les marchés d'actions à continuer à progresser sur le dernier trimestre de l'année, comme le marché du crédit. Dans les momentums qu'on assiste, parce que là on est sur des stratégies de momentum, le dollar pourrait continuer à baisser. Il a déjà commencé, pour nous, on peut aller sur un 25, un 35 d'ici la fin de l'an prochain, donc une glissade qui n'est pas un effondrement, mais qui est quand même musclée. Et on verra quelque part au premier, deuxième trimestre l'an prochain, où ce sera plus compliqué, comme on l'expliquait tout à l'heure, en matière de glissement et d'accélération économique, peut-être retirer un petit peu de toile en matière de risque, mais on imagine plutôt ça au T1 ou au T2 l'an prochain.
Merci Alain Bocovza d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.